Champagnac, Chronique du crime et de l'innocence, Le procès de Jeanne d'Arc. Notre intention n'est pas de retracer ici les circonstances merveilleuses de la vie de cette illustre héroïne. Il nous faudrait rapporter tous les faits qui se rattachent à cette époque de notre histoire. Il nous suffira de dire que Jeanne, bergère de vos couleurs, étant à garder ses boutons, fut saisie d'un enthousiasme surnaturel, vint combattre sous la bannière de Charles VII et sauva la France, tombée presque tout entière au pouvoir des Anglais. Beaucoup d'esprits sceptiques se refusent à croire aux choses prodigieuses accomplies par l'intervention de cette fille sublime. Cela ne doit pas étonner par le temps qui court. Nous sommes habitués depuis notre enfance à douter de tout, à mettre tout en question. Pour nous, plus de certitude est rien, plus de croyance, plus de foi, excepté pour les formules mathématiques. Certes, les auteurs de l'encyclopédie sont à l'abri du reproche de crédulité, mais cependant nous trouvons dans leur ouvrage cet aveu bien peu remarquable. Ce que nous avons rapporté de Jeanne d'Arc, disent-ils, et les résultats de son procès, combinés avec le récit des historiens, ce sent sûrement beaucoup de l'enthousiasme qu'inspira cette fille singulière. La philosophie peut en retrancher ce qu'elle voudra. Cet instrument fut du moins bon, actif et bien efficace. Peut-être en tout, ce phénomène historique est-il inexplicable. La condition, l'âge, les vertus, la piété, la valeur, l'humanité, la bonne conduite, les succès de ce vengeur inattendu de Charles VII, offrent à l'ensemble où le merveilleux domine, quelque effort que l'on fasse pour l'écarter ou l'affaiblir. Après qu'elle eut repoussé les Anglais et assuré la couronne sur le front du jeune roi de France, Jeanne voulait retourner dans le village qui avait vu croître son enfance. Elle semblait tourmentée par un secret pressentiment de son tragique avenir. « Ma mission est terminée, disait-elle. Plût à Dieu que j'eusse la liberté de renoncer aux armes et de me retirer auprès de mes parents pour les servir et garder leurs troupeaux avec ma sœur et mon frère. » On retrouve dans le caractère de Jeanne d'Arc, dit M. de Chateaubriand, la naïveté de la paysanne, la faiblesse de la femme, l'inspiration de la sainte, le courage de l'héroïne. Lorsqu'elle eut conduit Charles VII à Reims et lui fait sacré, elle voulut retourner garder les troupeaux de son père. On la retint. Elle tomba aux mains des Bourguignons dans une sortie vigoureuse qu'elle fit à la tête de la garnison de Compiègne. Le duc de Bedford ordonna de chanter un Te Deum et crut que la France entière était à lui. Les Bourguignons vendirent la pucelle aux Anglais pour une somme de 10 000 francs. Elle fut transportée à Rouen dans une cage de fer et emprisonnée dans la grosse tour du château. Son procès commença. L'évêque de Beauvais et un chanoine de Beauvais conduisirent la procédure. Cette fille est si simple, disent les historiens, que tout au plus savait-elle son pater son ave, ne se trouva pas un instant et fit des réponses sublimes. Condamnée à être brûlée vive comme sorcière, la sentence fut exécutée le 30 mai 1431. Un bûcher avait été élevé sur la place du Vieux Marché à Rouen, en face de deux échafauds où se tenaient plus des juges séculiers et ecclésiastiques, ou plutôt les assassins dans les deux lois. Jeanne était vêtue d'un habit de femme, coiffée d'une mitre où étaient ses mots « Apostate, relaps, idolâtre, hérétique. » Et Jeanne n'avait pourtant servi que les autels de son pays. Deux dominicains la soutenaient, elle était garrottée, les Anglais avaient fait lier par leur bourreau ses mains qui n'avaient pu enchaîner les soldats. Jeanne prononça à genoux une courte prière, se recommanda à Dieu, à la pitié des assistants, et parla généreusement de son roi qui l'oubliait. Les juges, le peuple, le bourreau et jusqu'à l'évêque de Beauvais pleurait. La condamnée demanda un crucifix. Un Anglais rompit un bâton dont il fit une croix. Jeanne la prit comme elle put, la baisa, la pressa contre son sein et monta sur le bûcher. Bayard voulut expirer péché sur le pommeau de son épée qui formait une croix de fer. Le second confesseur de la Pucelle rachetait par ses vertus l'infamie du premier. Il était auprès de sa pénitente. Comme on avait voulu la donner en spectacle au peuple, le bûcher était très élevé, ce qui rendit le supplice plus douloureux et plus long. Lorsque Jeanne sentit que la flamme allait l'atteindre, elle invita le frère Martin à se retirer avec un autre religieux, son assistant. La douleur arracha quelques cris à cette pauvre et glorieuse fille. Les Anglais étaient rassurés, ils n'entendaient plus cette voix que sur le champ des martyrs. Le dernier mot que Jeanne prononça au milieu des flammes fut « Jésus », nom du consolateur des affligés et du dieu de la patrie. Quand on présuma que la Pucelle avait expiré, on écarta les tisons ardents afin que chacun la vît. Tout était consumé, hors le cœur qui se trouva entier. Le procès de cette femme, jamais célèbre, offrit une foule de particularités qui tournent à sa gloire aussi bien qu'à la honte de ses juges. On ne peut se faire une idée des questions insidieuses, des menaces, des mensonges, des faux matériels qui furent mis en usage pour donner à son innocence toutes les couleurs du crime. Mais l'énergie, la justesse et la dignité des réponses de l'accusé confondirent plus d'une fois ses accusateurs. Elle subit plusieurs interrogatoires où elle montra un courage inébranlable, joint à la plus touchante douleur. Elle se soumit à l'examen des matrones pour qu'on n'eût point à douter de sa virginité. Mais le rapport de ces femmes lui ayant été favorable, on se garda bien d'en faire mention au procès, parce qu'il anéantit le principal chef d'accusation, celui de magie et de sorcellerie. Bien loin de nier qu'elle eût fait des prédictions, elle dit à ses juges qu'avant 7 ans, les Anglais ne voudraient plus rien en France. Dans le cours de cette infâme procédure, Jeanne en appela au jugement du pape. Mais Couchon, évêque de Beaunais, qui joua le rôle le plus odieux dans cette affaire, fit supprimer cette demande au procès-verbal. Sur quoi Jeanne lui dit « Vous ne voulez écrire que ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas faire mention de ce qui est pour moi. » Interrogée pourquoi elle avait osé assister au sacre de Charles avec son étendard, elle répondit « Il est juste que qui a eu part partout au travail en est à l'honneur. » Réponse digne d'une mémoire éternelle, selon l'expression même de Voltaire. Lorsqu'on lui signifia sa sentence de mort, elle fondit en larmes et s'écria « J'en appelle à Dieu, le grand juge des grands torts et un grand vance qu'on me fait. » Le croira-t-on ? Charles VII, qui lui devait la conquête de ses états et la conservation de sa couronne, ne fit rien pour venger la mort de cette héroïne. En 1455, on adressa au Saint-Siège pour la révision du procès de cette grande victime et son innocence fut facilement constatée. Le pape Calixte III réhabilita sa mémoire et la déclara martyre de sa religion, de sa patrie et de son roi. On conserve encore à Domrémy la chaumière des parents de Jeanne d'Arc. Des Anglais avaient voulu l'acquérir pour la faire transporter dans leur île, mais le propriétaire, quoique très pauvre, repoussa leurs offres qui auraient pu l'enrichir et aima mieux conserver à son pays ce monument de sa vieille gloire.